Bien. On avait commencé le 5.
Oui.
Hey, Vaizrach lo Hashemesh. Le soleil a lui pour lui. Amar Rabrechia. Ulmi lo Zachar Hashemesh. Ça veut dire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Le soleil à lui pour lui, le soleil lui pour tout le monde. Et là, il faut dire, le soleil à lui pour tout le monde, au sens où il y avait de la lumière pour tout le monde. Mais, les refous à tort, mais pour lui, ce soleil était un soleil guérisseur. Avalacherim aura. Mais pour les autres, c'était un soleil qui n'était que un soleil de lumière. Donc il y a des. Le soleil a des vertus guérissantes, on a vu ça dans Yevamot. On a vu dans la Gemara dans Yevamot justement que quand les Bnei Israël étaient sous les Anané Kavod, les nuées de gloire, il n'avait pas de soleil. Il n'y avait pas de soleil, parce que le soleil ne transperçait pas les nuages, ces nuées de gloire. Ça veut dire qu'il devait avoir une lumière artificielle, enfin, disons, qui n'était pas celle du soleil. Mais du coup, cette lumière, elle n'avait pas la qualité du soleil, c'est-à-dire cette qualité de guérisseur, je ne sais pas si c'est les UV ou je ne sais pas quoi, du soleil, qui guérissent, qui ont une. Et à cause de ça, les Israël ne faisaient pas la mila dans le désert. Parce que dans le désert, ils n'avaient pas de soleil pour guérir. Donc c'est paradoxal, c'est-à-dire que nous avons toujours l'impression que dans le Nekavod, il y avait tout. Il y avait tout, mais ça, il n'y avait pas. Il n'y avait pas la vertu guérissante du soleil. Ravuna, b'shem Ravacha, amar, kach hayta ha-shemesh merape be'avinu, Yaakov, u'melahetet be'esav u'be'alufav. Et effectivement, Ravuna dit au nom de Ravacha, voilà, le soleil guérissait notre père Avinu, notre père Yaakov, pardon, et le soleil brûlait Esav et ses princes. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, alors HaKadosh Baruch Hu a dit à Yaakov, il lui a dit, At siman lebanecha. Ce qui t'arrive à toi, c'est un siman de ce qui arrivera à tes enfants. Ma'at, Hashemesh merape becha, umlaetet besa ubalufav. De la même manière que pour toi le soleil est guérisseur, alors qu'il brûle Esav et ses princes. Kach banecha, de même pour tes enfants, te hashemesh merape bahen, umlaetet beovde kohavim. Et le soleil va guérir tes enfants, mais brûlera les idolâtres. Merape bahen, où est-ce qu'on voit que le soleil va guérir les descendants de Yaakov? C'est un pasouk dans Malachi. Vezarcha lachem yirei shemi. Il luira pour vous ceux qui craignent mon nom, Shemesh Tzedaka ou Marpe Bichnafea, un soleil de justice et littéralement par ses ailes, dans ses ailes. Ou Melaetet Beovde Kochavim, et dans ce même pasouk, mais en fait juste avant, c'est marqué Hine Hayom Ba, voici le jour vient, Boer Katanour, brûlant comme un four. Etc. Donc, le dernier des prophètes, Malachi, prophétise qu'il va venir un jour où effectivement il y a le soleil qui va être un soleil profitable pour les Israël et destructeur pour les idolâtres. Juste, c'est juste que ici le soleil est présenté ici non seulement comme guérisseur, mais comme un soleil de justice. Shemesh Tzedaka. C'est une dimension nouvelle qu'on n'avait pas encore vue jusqu'à présent. Ce que c'est qu'un soleil de justice. Et Yaakov, lui, il était Vehu Tzolea Lirecho. Yaakov, littéralement, il boitait de son hierer, c'était dû à sa hanche, comme on dit. Rabbi Yoshua ben Levi avait salik le romi. Rabbi Yoshua ben Levi est parti pour Rome. Vekevan de Ata le Akko, donc il allait en bateau, et quand il est arrivé au port, à Akko, Acre, pour prendre le bateau pour Rome, Nefak Chanina le Kadmouté. Chanina s'est présenté devant lui, et Ashkeche Matla l'Irecho. Et il a vu qu'il boitait. Amarlo, at dami le sabach, ou tzolea l'irecho. Il lui a dit, tu ressembles à ton ancêtre. Il boitait lui aussi. Voilà le. Voilà un morceau de ce midrash donc. Alors c'est intéressant parce que on nous dit, voilà, Yaakov boite. Ce midrash, il ne s'est pas du tout arrêté sur pourquoi est-ce qu'il boite tout à coup. Il a fait la guerre contre, il a gagné la guerre et puis tout à coup on dit, voilà, il boite. Et ensuite, Et alors il va guérir. Il va guérir grâce au soleil. Le soleil va le guérir. Pardon ?
Il ne guérit pas de la poitrine.
Si, il va guérir de cette boiterie. C'est de ça qu'il va guérir. Après, il ne boit plus. Mais bon, si la boiterie en question représente l'histoire, enfin, si il boite durant ce laps de temps ici, jusqu'à ce que le soleil le guérisse, le soleil luise pour lui, donc ça veut dire qu'il va y avoir un laps de temps pendant lequel. Si le clan d'Israël, qui est à l'image de Yaakov, va boiter. Alors, est-ce que c'est là le problème? C'est quand est-ce que le soleil va luire? Alors, on voit ici que le soleil qui luit, c'est qu'il luira pour les enfants d'Israël. Ça veut dire que jusqu'à ce que le soleil luise pour l'Ebné Israël, l'Ebné Israël vont boiter, si on peut parler comme ça, sur le modèle de la boiterie de Yaakov. Or, ce soleil qui va boiter, qui va guérir de la boiterie les Bnei Israël, c'est un soleil dont il est parlé dans Malachi, qui parle de Hine, il viendra un jour, il parle de la fin des temps. jusqu'à la fin des temps, le clan Israël sera dans cet état de boiterie. Chez Yaakov, ça a duré relativement peu de temps, jusqu'à ce que le soleil luise. Mais ce soleil qui a lui pour lui, c'est un soleil particulier parce que le problème ici, c'est qu'est-ce que ça veut dire que le soleil luisait pour lui et il brûlait Esav et ses princes. Esav n'a jamais brûlé. Ça fait référence à quoi que il y a un soleil qui brûle Esav et les et ça, c'est Aloufim, c'est prince.
C'est à leur zénith qu'ils auront leur chute.
Comment c'est ?
À leur zénith qu'ils auront leur chute.
Non mais... qu'à la fin des temps, le soleil qui va guérir Israël va brûler les idolâtres, faire disparaître l'idolâtrie en tant que telle. Très bien, je comprends bien. Mais c'est dit d'abord sur Yaakov. Amar lo akadosh baruch hu, at siman lebanecha, ma at ha-shemesh merapeh becha umelahetet be'esav ba'alufav. On voit nulle part, si on voulait qu'à ce moment-là, il y ait quoi que ce soit de destructeur de Esav et les siens. Tout ce qu'on voit dans les psukim, c'est qu'après cet épisode-là, le verset dit Vaizrach lo Hashemesh Kasher Avar et Pnuel, Veut Sole al Yericho, etc. Et à ce moment-là, Yaakov va lever les yeux, il va voir Esav, donc Esav est encore pas loin d'être mort, enfin, ou d'être détruit, ou d'être brûlé d'une quelconque manière. Il va lui envoyer tous les cadeaux, ils vont se rencontrer, ils vont se faire des politesses, tu viens, je viens, non, je vais pas. Et puis il se donne rendez-vous, un rendez-vous où Yaakov n'ira pas d'ailleurs, à Sukkot, à Shrem, où Yaakov ne va pas, et il va à Sukkot, et puis ensuite, d'une certaine façon, on n'entend plus parler d'Esav. D'Esav en tant que tel, on ne le voit pas, on n'en parle plus. La Torah, elle va énumérer les descendants, etc. Mais on nous dit que, voilà, Esav, lui, il est allé à Erseir. Il est Edom. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on sait. C'est là où, quand ils se sont séparés, Esav est allé là où il a dit qu'il allait. Yaakov est allé ailleurs. Et puis voilà, Esav, en tant que tel, il est dans l'histoire. Mais on a l'impression que il a disparu en tant que tel dans la vie de Yaakov. Donc c'est peut-être ça, le soleil, en fait, l'aurait brûlé au sens, bon, il n'existe plus, il ne fait plus problème, bien qu'ensuite on sera dans le... C'est lui Edom, et dans la version Edom, on va le rencontrer, mais dans sa version Esav, on le verra plus. Donc le verset qui dit « Où Edom ?» On comprend bien, Esav, c'est lui qu'on a appelé Edom parce qu'il était rouge, parce qu'il est... Et Bon, c'est, on sait simplement, on connaît ces toldot, on sait, etc. On va connaître Esav indirectement par Amalek interposé. Et ça, Amalek qui est le petit-fils d'Esav, on va le voir, il va arriver dans notre, malheureusement dans la vie du clan Israël par la suite. Mais Esav lui-même, le personnage Esav et ses fils comme tels, on ne les voit plus. Alors c'est peut-être ça que veut dire le verset. Toi, le soleil te guérit et te met en lumière. Maintenant voilà, Yaakov, il va s'épanouir, etc. Et ça, il va cheminer, il y aura son cheminement, il va devenir un peuple, etc. Mais d'une certaine façon, il ne va pas jouer le rôle qu'on aurait pu penser qu'il allait jouer. C'est peut-être ça qu'on veut dire quand on dit qu'il est brûlé, qu'il va disparaître. Lui et ses princes disparaissent. Maintenant, cette histoire de, comme vous dites, de Rabbi Yehoshua ben Lévi, qui quand il doit partir à Rome, alors Rome c'est Édom. Donc, à la limite, ce qu'on a l'air de dire, c'est que dans l'histoire... excusez-moi. C'est pas vrai, je l'ai pris.
Idiot.
Dans l'histoire, quand la rencontre entre Yaakov et Esav va se refaire dans l'histoire, Yaakov sera toujours en position de boiter. C'est ce qu'on lui dit ici. Étant donné que tu vas rencontrer Rome, donc tu vas rencontrer Esav, à cette époque-là, Esav, c'est Edom, c'est Rome. Comme il va à Rome, alors, il est dans la situation du Galout. Donc, par rapport à Rome, par rapport à Edom, Israël est toujours... Il boite. Il boite encore. Je crois que c'est ça que ça vient dire. Il lui dit, tu es comme Sabar, comme ton ancêtre. Alors, on peut se dire, mais pourquoi Hanina, Yaakov, c'est aussi son ancêtre. Pourquoi il lui dit ton ancêtre? C'est uniquement ton ancêtre parce que toi, tu vas à Rome maintenant. Moi, je ne vais pas à Rome. Donc, quand on n'est pas confronté à Esav, on n'est pas en état d'inférieur, on n'est pas dans cet état de boiterie. L'état de boiterie, c'est un état... c'est une espèce de situation dans laquelle on est mis ou on se met quand on rencontre Edom. Donc c'est ça la faiblesse d'Israël dans l'histoire, c'est par rapport à Edom, on boite. Alors, dans le Vav, ensuite, Alken, le Yochlou bnei Israël et Gidanaché. Pour cette raison, les bnei Israël ne mangeront pas du nerf sciatique, c'est-à-dire de. On ne mange pas le nerf, c'est la chair qui est autour de. qui est innervée, si vous voulez, par ce nerf sciatique. Du sciatique, mais j'y connais rien, je veux dire, c'est le nerf qui est autour de la hanche, j'en sais rien. Amar Rav Hanina, lama nikra shmo gid hanashe. Pourquoi est-ce que dans la Torah il s'appelle gid hanashe? Chez Nasha Mimkomo. Il s'appelle gid hanashe parce que il a nashe. Le mot Naché, vous le retrouvez, c'est le mot qui existe dans Menaché. Quand Yosef a donné le nom de Menaché à son fils, il dit, je te donne ce nom-là, je lui donne ce nom-là, qui Nasha ni Elohim. Hachem a fait oublier la maison paternelle, en fait. Guide à lâcher, c'est, semble-t-il, le guide. Les guidines, c'est les tendons, plutôt, on va dire, tendons. Un lâcher de l'oubli, en fait. Nashani Elokim, donc, guide à lâcher le. Un guide de l'oubli. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Nasha Mimkomo. Littéralement, c'est comme il a oublié de son lieu, littéralement. C'est pas. Ils ont traduit ici qu'il a oublié son makom, sa place. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction dans la mesure où c'est marqué ici Chez Nasha Mimkomo. Lo Nasha Mimkomo. Nasha Mimkomo. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Chez Nasha Mimkomo. Je lui demandais si on ne pouvait pas ici dire le Etz Yosef, il a traduit chez Kafatz Mimkomo, il a bougé de sa place, donc il a oublié sa place. Quand on dit Kafatz Mimkomo, ça va bien, il a sorti de sa place. Mais Nasha Mimkomo, si on veut faire ce jeu de mots de. De dire Nashé veut dire Nasha ici, et que Nasha veut dire oublier. Oublier de sa maison, de son lieu, je ne sais pas ce qu'on peut dire ici sur. Sur Yaakov, parce que si ça doit faire référence à Yaakov, bon, on voit qu'il s'appelle, c'est le guide lui-même, qu'on ne mange pas. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Si on veut faire le jeu de mots de l'oubli, c'est-à-dire il a bougé, ou qu'à face même comme mot, point barre, ça ne dit rien de plus. Mais je ne sais pas bien rendre compte de ce même-là, dans le Nasha. Vous voyez la difficulté? C'est vrai que Yosef, quand il nomme Menaché, il dit pourquoi je l'ai appelé comme ça. Oui, je sais, mais que le Nashani, ici, il dit Nashani et Kol, enfin, et kol amali ve'et kol bet avi. Il dit pas nashani mi bet avi. Je ne sais pas dire ici ce que. Je ne rien dire sur ce mime comme mot. Amar, Aï Pekou Kalta de Guida Charé. Il y a le nerf lui-même, puis il y a toutes sortes de ramifications. En fait, ces petites ramifications, en fait, elles sont permises. C'est vraiment permis. Israël, Kedoshim, Asrou, Oto, Alem. Mais les bnei Israël se les sont. Interdite. C'est pour ça que ne faut quasiment pas manger toute la partie arrière. Si on ne sait pas dépiauter tout ça, et aujourd'hui, les Ashkenazim, ça fait longtemps qu'ils disent qu'ils ne savent pas. Chez Sfardim, il y avait une tradition, qu'ils savaient, donc ils mangeaient, ils avaient des bouchers qui savaient effectivement nettoyer tout ça. Je ne sais pas si ça existe encore. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda Amar, Be'achat me'en naga, Be'achat me'en ne'esra. Il n'a touché qu'un seul côté, et donc qu'un seul côté qui est interdit. Et Rabbi Yossi Amar, Be'achat me'en naga, Ushte ne'esra. Il a touché un seul côté, mais les deux côtés, dans le monde animal, c'est interdit les deux côtés. It tana. Tane hadat machat sheu shel yamin, qui dit Rabbi Yehuda. Il y a un Tana qui dit c'est logique de penser que c'est le côté droit. Donc il commence comme Rabbi Yehuda que les deux ne sont pas interdits, un seul les deux, et lequel? Le droit. Veit Tana, Tane hadat machat sheu shel smol, il dit shel Rabbi Yossi. Mais Rabbi Yossi dit que shten nesau. Zmanda maradat nota shu shel yamin viga bekaf yerecho, c'est écrit, il a touché kaf yerecho. Umanda maradat machat shu shel smol, shenema kinaga bekaf yerech Yaakov. Kaf yerecho, c'est le bon côté, c'est le côté droit. Et l'autre, c'est kaf yerech Yaakov. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire ici, parce que. Lui, il a dit que il y avait. Il pense que c'est les deux qui sont interdits. Et puis après, on dit, mais. Comme si Rabbi Yossé, il avait dit que c'est le gauche qui est interdit. Donc, ça veut dire, lui, il pense que c'est le gauche qui a été touché. Et on a interdit les deux. Quand on dit la hanche, c'est la hanche droite, et la hanche de Yaakov, alors ça peut être la gauche aussi. C'est toute une discussion dans la Gemara à ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est le problème s'il a touché le côté droit ou le côté gauche? Alors, beaucoup disent comme ça. Regardez les commentateurs. dans la marge de gauche, là, vous avez il y avait des fridouchés à Redal sur la en haut à gauche. Il se nemar qui naga bekaf yerech Yaakov. Donc d'après la girsa du Matnot Keuna, c'est un commentaire d'en bas, Mandamar shel Smol, celui qui dit à gauche, il va aussi d'après Rabbi Yehuda. Parce que lui, il dit comme ça. Il dit, « Il mouvan araya, mi ki naga bekaf yerech Yaakov. » Alors la preuve n'est pas tellement compréhensible. Il dit dans la Gemara aussi, c'est « Lo niskar le Rabbi Yehuda, rak shel yemin, kol ha-drashot sham, al ze. » Mais la chen, il dit, « Kim dume, il me semble, che ikar ha-girsa, » Lui, il dit que la version essentielle, c'est « Man de Amar » Adat machrat shel smol, que quand on y réfléchit, on doit dire que c'est le côté gauche. Donc il faut dire af shel smol. Il a touché aussi le côté gauche, comme Rabbi aussi. Après ça, ça veut dire il a touché les deux côtés, aussi le côté gauche. Ou ma'iti raya midirtiv ki naga bekaf yerech Yaakov begid anashe. Donc klomar kshenaga naga rak beyerech echad. C'est au singulier. Quand il a touché un seul yerech. Une seule hanche, en fait. Ou mahmad zen es rouge tehen, que les stam. Mais malgré tout, les deux ont été interdits. Parce qu'on a dit, la hanche est interdite, quoi. On ne mangera pas le guide à lâcher. Peu importe lequel. J'ai l'impression que selon qu'on dit qu'il a touché à gauche ou à droite, a priori, ce qui a été touché, c'est ce qui permet à l'homme de se tenir de. C'est la partie de la hanche, c'est-à-dire c'est la partie qui permet de se tenir, quoi, de se tenir debout. C'est-à-dire le soutien. Et le soutien, c'est ceux qui soutiennent la Torah. Donc c'est en fait les gens qui aident ceux qui se consacrent à l'étude de la Torah. Et maintenant, si on a touché le côté droit, ça veut dire qu'on a touché les tzadikim. Si on a touché le côté gauche, on a touché ceux qui ne sont pas les tzadikim. Et le problème, c'est toucher les tzadikim, ça veut dire on a empêché les tzadikim d'être aussi bons qu'ils auraient pu l'être. Et toucher les rechaïm, ça veut dire les aider à ne pas être ce qu'ils devraient être. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une amplification du côté du mal, ou alors une diminution du côté du bien. C'est-à-dire que ce que Esav, enfin, si c'est l'ange d'Esav, Ce que l'ange d'Ésav a voulu faire, c'est qu'il a voulu handicaper les Bnei Israël, c'est-à-dire que d'une part, on peut dire, les tzadikim ne seront pas aussi tzadikim qu'ils auraient pu l'être, et d'autre part, les rechaïm sont plus rechaïm qu'ils l'auraient été autrement. Mais on peut dire, autrement, on peut dire que c'est tout le problème seulement du soutien de la Torah. Il y a ceux qui se consacrent à l'étude de la Torah elle-même, et puis il y a ceux qui doivent les soutenir. Et ce que l'ange d'Ésav a fait ici, il a fragilisé le soutien de la Torah. Et pourquoi il a fragilisé le soutien de la Torah? Parce que vous vous souvenez que toute cette histoire, elle a démarré parce que Yaakov est allé chercher les pachim. Retourner chercher les pachim. Et Chazal explique, parce que nos ancêtres, ils ne touchaient pas le gazelle, c'est-à-dire ils faisaient attention à ne pas voler. Alors, on a déjà expliqué en long, en large et en travers que de dire devant quelqu'un d'autre, mes ancêtres, ils faisaient attention à ne pas voler, c'est une façon de dire, les tiens, ils ne faisaient pas attention. Donc, quelque part, vous êtes des voleurs. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas la rigueur que nous avons. Alors, certains veulent expliquer que en attaquant le support matériel de la Torah, ça veut dire que ce ne sera pas évident d'étudier la Torah quand on n'a pas à manger, en fait. Alors, ce que Esav va vous dire, on va voir si dans cet état-là, vous serez toujours aussi regardant, ou si là, vous allez vous permettre de prendre de l'argent qui viendrait de gens qui ne sont pas aussi regardants, etc. Est-ce que vous avez édifié la Torah uniquement de façon parfaite, comme vous le dites? C'est-à-dire, ou bien est-ce que vous allez vous permettre des facilités parce que, bon, ben parce que les nécessités font loi. En fait, donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu mettre les Bnei Israël dans une situation où ils seraient obligés d'en rabattre un peu sur leurs prétentions à vivre à ce haut niveau de droiture, en fait. Parce que, qu'est-ce que faisaient les Avot? On a expliqué, les Avot, ils voulaient absolument vivre de façon totalement parfaite, c'est-à-dire totalement autonome. Parce que si on n'est pas parfaitement ultra rigoureux, alors quelque part, on se construit avec des choses qui ne vous appartiennent pas obligatoirement complètement. Enfin, si quelqu'un prend de l'argent à quelqu'un, je vais prendre à l'extrême, si quelqu'un vole et qu'il construit la Torah avec de l'argent volé, quelque part, cette Torah, elle ne sera pas parfaite. Donc, les Bnei Israël, ce qu'ils disent, c'est nous, notre rapport au bien matériel, à l'argent, etc., est un rapport d'extrême rigueur. Nous, on veut être sûr que les gens qui nous vendent Belev Shalem, il n'y a plus aucune trace de l'autre. Donc, on est parfaitement autonome quand on se construit. Alors, l'ange d'Esav, il dit, ok, on va voir. On va voir si vous continuez d'être aussi autonome quand ça sera difficile. Quand tout va très bien, quand effectivement les deux hanches sont là et tout l'édifice peut reposer effectivement sur la droiture. Mais quand c'est un peu tordu parce que justement il boite, c'est-à-dire le support est un peu tordu, quelque part, est-ce que vous allez continuer d'avoir cette extrême rigueur ou pas? C'est-à-dire que en quelque sorte, faire cesser cette critique que vous nous faites, que nous, on serait des voleurs, on va voir si vous n'êtes pas aussi un petit peu voleur quand ça devient difficile. Parce que c'est facile de ne pas être voleur quand c'est facile, quand vous êtes assuré, quand Hachem vous donne tout, etc. Okay. Mais quand vous boitez, quand c'est pas évident, alors là, on est obligé de faire des compromis. Alors, on va voir si effectivement vous n'entrez pas dans les compromis. Certains disent que c'est ça le problème. Alors maintenant, est-ce que la boîterie, elle est peut-être que si on touche le côté droit, alors bon, c'est la Torah qui est plus touchée, et si on touche le côté gauche, alors c'est le support, enfin, c'est, tous les deux c'est le support, mais c'est le support des tzadikim par eux-mêmes, ou c'est le support des tzadikim par des gens qui sont peut-être moins tzadikim, qui sont du côté gauche. Là, on a pratiquement terminé, parce qu'à ce moment-là, le Vaïssa, Yaakov et Nav, donc il en a fini avec l'ange des Saves, avec les anges. Maintenant, Yaakov lève les yeux, Vaïa, et qu'est-ce qu'il voit? Amarab Lévi avait Kaes à la Behema et à la Chaya, Veachaya. Ari avait Kaes à la Behema et à Chaya.
Je suis désolé, hein, il y a une petite erreur de...
De quoi?
D'intendance, de logistique, et donc il n'y a pas de... Ça s'arrête là.
Qu'est-ce qui s'arrête?
La partie en...
Ah, dans le Zaïn?
Oui.
Ah ben... Le renard, vous, en français vous l'avez, oui?
Oui, en français. Là.
Oui, le renard, c'est-à-dire le roi des animaux, avait Kaes à la Behema et à Chaya. Il était en colère contre ses sujets, c'est-à-dire contre les animaux. Et, y compris les animaux sauvages. Amrin, alors les animaux se sont concertés et ils ont dit Manazil Mfayes Yate. Qui est-ce qui va aller apaiser le roi? Qui est-ce qui va aller apaiser le lion? Omar Lehu Aden Ta'ala. Alors le renard a dit. Atun leacha de ana yada. Alors le renard a dit, moi c'est moi qui vais y aller. Moi je vais y aller, et pourquoi? De ana yada tlat mea, parce que moi je connais 300 matlin, 300 meshalim, 300 paraboles, 300, ouais, 300 paraboles, 300 fables. Bana me fayes yate. Je ne sais pas pourquoi les fables sont là pour apaiser. Alors c'est des histoires qu'il va lui raconter. C'est quoi, il est en train de nous faire les mille et une nuits ou quoi? Amrin le agumin. Alors, bon, ils lui ont dit, ok, on est d'accord. Alors, il s'est alach, sifrar bekamle. Donc, il s'est mis en marche. Mais tout à coup, il s'est arrêté. Il a un peu avancé, il s'est arrêté. Amar. Amoulé et Maden, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, Amar Lohun, Anchit Mea, j'ai oublié 100 de mes 300 Meshalim, de mes 300 fables. J'en sais plus que 200. Amoulé, Id Bematan Birkhan, ils lui ont dit, ok, c'est bon. C'est assez 200, il y a assez de bracha en quelque sorte dans 200. Alar tifra, bekamle. Il avançait encore un peu, s'est arrêté, ils ont dit qu'est-ce qui se passe. Il a dit, J'en ai de nouveau oublié 100. J'en ai plus que 100. Amroulé, Avemea, Bechan. Il dit, mais 100, ça suffira aussi. Quand il est arrivé là-bas, il a dit, j'ai tout oublié. Et la kol chad vechad yefayes al nafshe. Donc il a dit, ok, bon ben, que chacun y aille avec ce, par soi-même, quoi. Je ne peux pas y aller pour vous, quoi. Kach Yaakov Avinu. Il en va de même pour Yaakov Avinu. Rav Yehuda bar Simon amar. Yesh bi koach la'aroch tfila. Rabbi Yehuda bar Simon a dit, moi, je peux prier. Rabbi Levi amar, yesh bi koach la'aroch milchama. Rabbi Yehuda a dit, j'ai la force de faire la guerre. Le kivan de mata. Quand il s'est approché, Vayachatz et Tayeladim, Amar, Kolenesh Venesh, Dichvatat, Komle. Il a dit chacun pour soi, chacun pour son mérite. C'est-à-dire, il semble que Yaakov ait pensé qu'il allait pouvoir parler au nom de tous, de toute sa famille finalement. Semble-t-il, il s'est avéré, ce midrash dit qu'il s'est avéré, que Yaakov s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas. Il n'avait pas, à lui seul, il n'avait pas assez de mérite pour affronter Esav. Voilà, c'est le lion, c'est Esav.
C'est Esav. Le renard, c'est.
Et le renard, c'est Yaakov. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si on était en train de dire que dans cette situation, le roi. C'est Esav. Et celui, et le sujet, c'est Yaakov. Yaakov et la famille, là, ce sont les sujets du roi. Et le roi est en colère, évidemment. Esav est en colère contre Yaakov, puisque Yaakov lui a pris les brachot. C'est en tout cas ce que Yaakov pense. Parce que quand il va rencontrer Esav, il s'avérera que Esav, il n'a plus l'air de lui en vouloir. Quoi. Mais lui, Yaakov, il pense qu'il l'en veut, qu'il lui en veut. Même cette idée de. Qu'est-ce que cette idée d'aller apaiser avec des méchalim, d'aller apaiser avec des fables? C'est quoi? C'est. Il va lui parler? Il va l'embobiner? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Et puis, dans l'exemple qui est donné, c'est marqué, il y a Rabbi Yehuda qui dit, moi j'ai la force de dire, de prier, et Rabbi Levi qui dit, j'ai la force de faire la guerre. c'est les, la tfila et la guerre. C'est deux des trois choses avec lesquelles Yaakov s'est préparé pour affronter Esav. Il y avait une troisième chose, c'était celle qu'il a finalement la seule, enfin, la prière il a sûrement prié aussi, mais en tout cas celle qu'on voit décrite dans la Torah, c'est les doron, c'est les cadeaux. C'est les cadeaux qu'il a donnés pour l'apaiser.
Donc, vous voyez, les méchalim, ce serait des sortes de cadeaux.
Et donc d'après ça, les méchalim jouent le rôle des cadeaux. Et finalement, les cadeaux, il les a donnés. Seulement, il ne les a pas donnés, c'est pas lui qui les a donnés. Il a donné à tout, il a envoyé des gens pour lui envoyer les cadeaux. Il n'a pas amené les cadeaux lui-même. Il leur a dit, vous direz que les cadeaux viennent de Yaakov. Mais il ne les a pas amenés lui-même. Et les cadeaux, ils ont été acceptés. Quelque part, ça a marché. L'histoire des cadeaux a marché. Ça l'a vraiment apaisé. Il n'y a pas eu besoin de faire la guerre. On ne dit pas qu'il a prié. On dit qu'il s'est préparé par la prière. Vraisemblablement, il a prié. Il n'y a pas un passouk explicite qui dise qu'il a prié. Tout ce qu'on nous dit explicitement, c'est que... Bon, ben, il a eu peur de devoir faire la guerre parce qu'il avait peur à la fois de tuer et d'être tué. Il a effectivement envoyé ses cadeaux qui ont été acceptés. Probablement qu'il a prié aussi. D'après ça, comme il y avait trois choses, alors dans ces méchalim, les méchalim sont à la fois la prière, la prière, la guerre et les cadeaux. Pas seulement les cadeaux.
Je vois pas
les cadeaux. Il s'est préparé à trois choses derrière Yaakov Avinu. Ici on nous dit Milchama et Tfila. Il manque les Doron. Mais oui, c'est une parole, évidemment que c'est une parole.
Il dirait qu'il l'a oublié. Une parole qu'il voulait dire, mais finalement il ne l'a pas dit.
Oui, il ne l'a pas dit. C'est pour ça que je demande, c'est ça qui est toujours intéressant. Quand il y a un machal et qu'on connaît la réalité, ce qui est important, c'est de savoir en quoi le machal n'est pas la réalité. Pourquoi tu me racontes un machal? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ce midrash, il a l'air de présenter les choses comme si Yaakov finalement il s'est rendu compte que, comme il dit, chacun pour soi, chacun avec son propre ve'inesh dichvatat kumle, chacun va se débrouiller tout seul. C'est un peu surprenant. Le Matnat Kuna, il dit, quand il dit Yesh Bikoach, Rabbi Yehuda dit j'ai la force de, le Matnat Kuna, il dit Kach Amar Yaakov le Banav. Yaakov a dit je peux prier, je peux faire la guerre. Et on ne nous dit pas qu'il a dit je peux envoyer des cadeaux. Il les a envoyés les cadeaux. Donc le. C'est pas exactement la même chose que le machal. Dans le machal, on a l'impression qu'il a envoyé que des cadeaux, seulement il a envoyé 300. 3, ça fait référence aux 3, comme si peut-être les machalim, c'est tout à la fois. Mais quand il dit j'ai oublié ça, il a l'impression que si on traduit comme ça, ça veut dire la prière, je n'arrive pas à prier. Je ne peux pas faire la guerre. J'ai oublié les machins. Je suis incapable. Et puis quand il est arrivé sur place, il ne pouvait plus rien dire, parce qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est que quand Yaakov est arrivé devant Esav, ben, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est prosterné devant lui. Il lui a donné, Dieu a donné, il s'est écrasé littéralement devant lui. Ce serait là, voilà, tout oublié. Évidemment, ce qui nous intéresse, nous, maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que le Machal vient dire ici. Qu'est-ce que le Machal nous dit qu'on ne pouvait pas dire directement.
Est-ce qu'il y a un rapport entre l'outil et le guide attaché dont on nous parlait tout à
l'heure ? Justement. On a vu, Nachani, c'est Lachon oubli. Et quelque part, c'est l'avoir touché, c'est l'avoir fait oublier, quoi, quelque part. Ça veut dire que, ici, on a une indication qui nous dit que si Yaakov a oublié, en fait, donc s'il a été incapable de faire ce qu'il voulait faire, c'est parce que l'ange l'a touché. Dans cette guerre, il n'est pas sorti indemne. Il est sorti empêché de faire ce qu'il savait faire par rapport à Esav. Ce midrash-là, en tout cas, il le présente comme ça, comme si Yaakov, au sortir de sa lutte, il a gagné à terme, mais entre-temps, quand il s'agit d'affronter concrètement Esav, ben, il est empêché, il a oublié, c'est comme si j'ai oublié comment on prie, j'ai oublié comment on fait la guerre. Et quand il est devant lui, ben, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il sait, c'est j'accepte tout. Il s'écrase. Et en fait, ils vont tous être sauvés, mais d'après ce midrash-là, on a l'impression. Ils sont sauvés, chacun est sauvé par ses propres mérites. Ils ne sont pas sauvés par Yaakov. Comme si ici le Midrash voulait dire, ben voilà, le clan Israël en tant que tel, il n'est pas sauvé, il n'a pas un sauveur. D'accord ? Chacun doit faire le travail par soi-même. Ça ressemble énormément à la situation du Galout, dans lequel on n'a pas de Beth Amikdash, donc on n'a pas de Kohen, Elanou Kohen Gadol, Elanou Mizbeach, Elanou Beth Amikdash, Elanou Kohen Gadol. On dit voilà, tout ce qu'on a, c'est ce qu'on peut faire par nous-mêmes. Donc, on est dans la situation, le Galout, c'est la description de notre situation à nous. Nous sommes dans une situation où il faut faire par soi-même. Tu dois faire toi-même. Il n'y a pas de sauveur. Personne ne va venir te sauver. Même Yaakov Avinu ne te sauvera pas. Quelque part, c'est ça c'est le prix à payer. Vous allez gagner ultimement, mais ici dans ce midrash, ce n'est pas dit clairement. Parce que la question c'est, mais pourquoi ? Est-ce que Yaakov a été touché à la hanche ? À d'autres endroits, il est dit que, en fait, si Yaakov a été touché, c'est parce qu'il a continué le combat. Il n'a pas lâché l'ange. Quand l'ange lui a dit « Laisse-moi partir », il l'a retenu, donc il y a encore, l'autre a fait des mouvements, et il l'a blessé. Durant le combat, il ne l'a pas touché, il ne lui a rien fait. Mais c'est comme si Yaakov avait continué le combat au-delà de la limite, dans un moment où il n'y avait plus à combattre. Ça y est, t'as gagné, c'est fini. Ça veut dire, tu peux pas écraser l'autre. Tu as gagné, ça suffit. Il a reconnu. Il a reconnu, ça va. Laisse-moi partir. S'il demande laisse-moi partir, ça veut dire, je suis en ton pouvoir, laisse-moi partir. Ok, pas. Il l'a retenu pour qu'il lui donne une bracha, etc. C'est pas qu'il voulait. Mais sauf, il avait, d'après certains midrashim, il n'avait pas le droit, Yaakov, à ce moment-là, d'insister. Il ne pouvait pas le tenir, il n'avait pas le droit de le. Il ne pouvait pas prolonger le moment où il était vainqueur. Et parce qu'il aurait prolongé ça, indûment, en quelque sorte, il aurait, de ce point de vue-là, perdu un chani. Il n'était plus à sa place. Il a bougé de sa place ici. Il a oublié où était sa place. Il a oublié. Et voilà, c'est. Ta place, c'était. Tu dois savoir lutter dans ce laps de temps. En dehors de ce laps de temps, tu n'as pas à lutter. Tu n'as pas de droit. Tu ne peux pas passer outre. Je crois que c'est ça que le Midrash veut dire. Curieusement, c'est pas, on ne peut pas. C'est fini, la partie est terminée. Et si tu prolonges, ben ça se retourne contre toi.
C'est cher.
Oui, bien sûr que c'est cher. À ce niveau-là, tout est extrêmement cher. Ça se joue. Il ne faut pas oublier. Qu'est-ce qui se joue là? Yaakov est en train de jouer une partie dans laquelle il veut jouer dans la catégorie des anges. Tu veux jouer dans la catégorie des créatures quasiment célestes. Tu veux être ton propre ange. Si tu es à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Le moindre écart ne pardonne pas. C'est ce qu'il lui dit. Il dit, moi, il faut que je suis obligé de rentrer. Et ça ne se discute pas. Et d'une certaine manière, il va faire fauter l'ange aussi. L'ange, vous vous souvenez, il a dit, est-ce que je lui dis, je ne dis pas? L'ange va lui dire quelque chose qu'il n'aurait pas dû lui dire. Donc, il a quand même venu à chambouler des trucs dans cette affaire, d'après ce Midrash. Je comprends bien. Il y avait des choses qu'il ne fallait pas faire.
Est-ce qu'on peut aussi voir ce qu'il ne faut pas faire quand on est en tremblement avec le pouvoir en face? C'est quand on parle en quelqu'un d'autre que.
Ouais, il ne faut pas se faire, il faut pas se faire connaître.
C'est ça.
Il ne faut pas.
Il ne faut pas chercher à.
Planque-toi, reste tranquille chez toi.
Je ne dis pas que quand les maîtres devaient rencontrer des grands puissants de ce monde, ils relisaient cette paracha.
La paracha de Vaishlav. Mais Vaishlav Malachim, Yaakov Malachim. Effectivement, quand on était obligé, on fait ce que Yaakov a fait. Sauf, puisque le problème c'est comme ça, c'est maintenant on est dans le galout. Maintenant on ne peut rien y faire. Yaakov nous a mis dans cette situation-là, donc on va faire la seule chose qu'il a faite. Et qui a été efficace, alors il faut. Ce qu'on a fait, c'est que quand il fallait intervenir, on a donné des cadeaux. On a essayé d'acheter les gens. C'est comme ça qu'on a fonctionné dans toute l'histoire. Et c'est d'une certaine manière, on a survécu comme ça. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient tellement achetables en quelque sorte. Ils voulaient tellement d'argent que ça nous a donné un pouvoir de survie. Et ça, ce point-là, il est indiqué, il n'est pas indiqué dans ce midrash-là, mais il est indiqué dans les psukim, parce que c'est marqué officiellement, quand Yaakov lui a envoyé des cadeaux, et ça, il a dit, mais non, mon frère, je suis très riche, etc. Mais Chazal l'a entendu dans ce qu'il dit. Il lui a dit, Yesh les rov, j'ai beaucoup, j'ai énormément de choses. Yaakov l'a dit, mais moi, Yesh les kol, moi j'ai tout. C'est-à-dire, tout, ça veut dire que j'ai besoin de rien. Il me manque rien de ce dont je pourrais avoir besoin. Lui, il a dit, j'ai beaucoup. Et comme je dis toujours, les petits, les enfants, ils disent, oui, après beaucoup, il y a très beaucoup. Ok. Et il a accepté, finalement. Après avoir dit, je lis, je l'école, je n'ai pas besoin, etc. Finalement, il a accepté. Quelque part, ayant accepté, il ne pouvait peut-être plus faire la guerre à ce moment-là. On ne sait pas ce qu'il pensait.
Il le mettait en dette.
Pardon ?
Il le mettait en dette.
Quelque part, oui. Au moins momentanément, le temps que... Sur le moment, tu peux difficilement faire la guerre avec quelqu'un qui t'apporte des cadeaux.
Et vous dites que par analogie, au long de l'histoire, enfin, tout au long de l'histoire, ça a été ça d'acheter, enfin, de...
On a payé. Il fallait payer. Ils nous faisaient payer d'ailleurs. Ils ont compris le truc, il faut payer. Et on a payé. Il y avait des moments où c'était tellement énorme qu'on ne pouvait plus payer. C'est ce qu'ils ont fait quand ils ont expulsé les juifs de tel et tel pays, en leur confisquant leurs biens. Et après, au bout de quelques temps, ils avaient besoin des juifs. Alors ils ont dit, vous pouvez revenir, mais il faut payer pour revenir. Donc il fallait payer. Puis après, ils s'endettaient de nouveau auprès des juifs, et après, ils confisquaient leurs biens et les jetaient, et on recommence. C'est comme ça qu'ils ont fonctionné, en tout cas en Europe. Ils fonctionnaient comme ça. Comme les chrétiens avaient cette fiction qu'ils n'ont pas le droit de prêter intérêt, donc on a mis les juifs là-bas, puis après, bon, ben, les juifs étaient ceux qui prenaient intérêt. Quand on pouvait plus les, quand les rois ne pouvaient plus les payer, eh bien, ils les expulsaient et ils leur confisquaient leurs biens.
Mais pourquoi à ce moment-là, Rabbi Yehuda et Rabbi Levi disent il y a quand même cette force de dire une prière ou de livrer bataille?
Non, non, le matin de Kehuna, hein, il dit sur Yeshbi Koach, etc., Kach Amar Yaakov le Banav. Lui, il lit que ce qu'il dit, c'est ce que Yaakov a dit à ses fils. En moi, il y a la force de dire une prière. Yaakov dit, en moi, hein, il dit à ses fils, je peux prier, ou Lévi dit, moi, je peux faire la guerre, les batailles. Mais immédiatement, quand Esav s'approche de lui, il partage les enfants, il dit, voilà, chacun soit sauf par son propre mérite. Chacun... Mais Kachaya.
Mais on pourrait... Ça fait bizarre par rapport aux enfants, parce qu'ils peuvent être
naïfs. Parce que...
Parce qu'on a l'impression que, je veux dire, que les enfants, selon leur propre mérite, de la part d'un père,
Il s'est mis devant quand même, lui. Lui, il s'est mis devant. Mais après, il a mis... Il n'est pas allé tout seul. Il est venu avec tout le monde, il s'est mis devant, il les a protégés, bien sûr, à mesure du possible. Mais il a dit, je vous représente pas complètement. Je vous protège, mais je ne vous représente pas. Oui, chacun va se sauver par son propre mérite, et après c'est marqué, et il passa devant eux.
Oui.
Donc il. C'est-à-dire qu'en fait, jusque-là, qu'est-ce que voulait faire le renard? Le renard, il s'est dit, moi, vous restez là, et moi je vais négocier avec le lion. Et après il s'avère que, bon, pas du tout, je suis incapable de négocier moi tout seul. Donc quelque part, Jacob voit que. Je vais avoir besoin du mérite de tout le monde. Alors je vous protège, je me mets devant, on n'est pas chez Arab, ils mettent les enfants devant. Non, lui, il se met devant, bien sûr. Mais, il dit, je ne peux pas y aller tout seul.
C'est juste
l'histoire
des 300... Le Chalim. Parce que je croyais Moumara qui dit qu'il aurait du mérite. Justement,
oui.
On dirait qu'il y a un rapport entre
les... Le renard, c'est la ruse. Et le renard, normalement, c'est Meshalim. C'est les fameux Meshalim du type ce qu'il a essayé de raconter dans le renard et les poissons. Oh, il dit aux poissons, aux petits poissons, venez sur la berge parce que je vous protégerai. Là, il y a les gros poissons qui vont vous bouffer. Alors, ils l'ont dit, c'est débile. Quoi. Dans l'eau qui est notre élément naturel, on est en danger, mais si on sort de l'eau, on est mort. On n'est pas complètement idiot. Donc, il a fait un machal, il s'est imaginé qu'il pourrait leur raconter des histoires. Un rapport parce que la halakha c'est milchamta shel Torah, la guerre de la Torah, et les psukim c'est probablement comme la tfila. Et les meshalim c'est les cadeaux. C'est ce qui permet de recevoir les choses, c'est-à-dire de se mettre en forme. C'est une façon de dire les choses. Faire réfléchir, mais on peut s'arrêter au machal. Tu peux aller plus loin et comprendre que le machal dit quelque chose, mais le machal, c'est déjà une histoire, le machal. Entendu par femme, ça veut dire, c'est comme le gars dit dans Michelet, il dit voilà, le verset, il te dit quelque chose déjà. Après, il faut aller regarder ce qui est derrière. Ce que je ne comprends pas très très bien ici, c'est cette idée, justement, j'aurais bien voulu expliquer Machal justement par des paroles, même à supposer que ce sont les cadeaux, les cadeaux c'est la communication, on communique, voilà, surtout qu'il a donné des cadeaux qui étaient significatifs, il a envoyé, il y avait de tout, il y avait des animaux mâles et femelles, des animaux des bêtes qui étaient pleines, il y avait toutes sortes de choses. Donc à chaque fois, il y avait tout un remèze. Il y a des midrashim qui parlent de. Mifarshim qui parle de pourquoi il a donné ça et plutôt que ça, etc. Chaque chose avait du sens. C'était une communication, c'était une façon de parler. Mais tout ça, il avait l'intention de lui envoyer un message, et finalement, il a pas. On a l'impression que, d'après ce midrash-là, qui dit que. Bon, j'ai envoyé les choses, mais. C'est lui qui pense que ça ne suffit pas. Ce qu'on voit, c'est qu'Essav a l'air de ne pas comprendre. Il dit mais qu'est-ce que c'est, ces trucs-là? Je ne sais pas s'il fait comme s'il ne comprenait pas, mais en tout cas, il ne comprend pas. Il lui dit pas j'ai compris le message, et du coup Yaakov comprend, et c'est pour ça qu'il se prosterne, devant lui, il comprend qu'il n'est pas prêt, ou bien ça veut dire je suis pas du tout prêt à entendre ce que tu es en train de me raconter là. Supposons que il y a là tout un discours, mais ce discours je ne l'entends pas. C'est-à-dire, en fait, les brachot que Yaakov a reçus, c'est les brachot qui le mettent au-dessus des saves. Et au fond, les saves, il vient, et c'est comme s'il disait « j'entends rien tant qu'on n'a pas retourné la situation. Tant que tu m'acceptes pas comme... » Il lui dit rien, mais Yaakov comprend, je pense qu'il se comprenne à mi-mot. Yaakov comprend qu'il faut qu'il s'écrase devant lui, donc... Il lui dit d'abord, les brachot, tu vois, ça n'a pas marché. C'est pas quelque chose d'extraordinaire ce que j'ai. Et d'un autre côté, il s'écrase devant lui. Il lui donne du Adoni, Monseigneur. Donc voilà, ça y est, il a retourné la situation. Et à ce moment-là, il le reçoit bien, parce que maintenant, ça y est, c'est réparé. C'est... Parce que tu as accepté que j'étais le maître. Alors ça, on peut comprendre. C'est que ça veut dire qu'il a oublié tous les méchalim, c'est-à-dire, quand il arrive, il sait plus, il sait pas quoi faire pour que ça parle. Ça parle pas. Je ne sais plus quoi dire. J'ai plus rien à dire. Si, on a l'impression que si le renard allait dire des meshalim au lion pour l'apaiser, dans ses meshalim, il allait probablement lui dire: nous te reconnaissons comme roi, etc., sur tous les tons, avec chaque main, dans tous les meshalim. Et d'un coup, il s'aperçoit que ça ne va pas. Peut-être parce que pour qu'un machal fonctionne, il faut que quelqu'un veuille bien l'entendre. Il faut que le roi veuille l'entendre. Et il faut que toi, devant le roi, tu sentes que tu peux le lui faire entendre. Et du coup, le renard, il s'est rendu compte. Je les ai oubliés, ça veut dire, je ne sais plus comment il faut les dire. J'ai oublié comment on peut exprimer ça de 300 façons. C'est au fond 300 façons de lui dire, ok, je te reconnais comme le roi. Nous te reconnaissons tous comme le roi. Et avec tous les meshalim, il peut mettre dans ses meshalim tous les animaux. L'ours te reconnaît, la belette, enfin tout le monde, les oiseaux, tout le monde te reconnaît comme le roi. Non, il ne sait plus les dire, il les a oubliés, donc ça ne marche plus. Il semble que Yaakov, non, c'est ça, Yaakov, normalement, puisqu'il est l'ancêtre, il est porteur de tout ce dont ses enfants sont porteurs. Alors c'est ce dernier point peut-être que je vais peut-être voir, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire que chacun selon son mérite? Ça veut dire que lui, tout ce qu'il a, c'est vrai qu'il a tout, d'une certaine manière, ce qu'ils ont eux, mais lui, il l'a de façon potentielle. Eux, ils l'ont déjà un peu actualisé. Donc du point de vue des mérites, c'est complètement différent. C'est-à-dire, lui, potentiellement, il est tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'il faut un clan Israël? Pourquoi il faut des tribus? Pourquoi il fallait passer de 1 à 12? Et là, et plus ensuite. Parce que c'est ça, le clan Israël. Parce que c'est l'actualisation de toutes ses potentialités. C'était resté quasiment potentiel jusque-là, et maintenant il faut actualiser tout ça. Et eux, ils sont dans la phase d'actualisation. Chacun son mérite, ça veut dire... Yehuda, il est Yehuda, c'est plus que la potentialité d'Yehuda qu'il y avait en moi. C'est-à-dire, il faut bien que les choses se fassent par chacun, que chacun aille au bout de son histoire, etc. C'est ça l'histoire, en fait. Au fond, ce qu'on pourrait dire, c'est que toutes ces histoires qui ne se sont pas arrêtées, l'histoire qui ne s'est pas arrêtée avec Adam Harishon qui aurait réussi à faire ce qu'il avait à faire, et on serait immédiatement entré dans l'Amaba. Ou bien, mon cher Abeinu, si les Bnei Israël, etc., tout s'était déroulé comme il fallait, bon, l'histoire aurait été terminée. Mon cher Abeinu serait entré en Eretz Israël, il aurait été Mashiach, c'était fini. Donc, toutes ces situations-là, c'est des situations dans lesquelles il y a une potentialité. Mais ce n'est pas l'histoire. L'histoire, c'est quand les choses s'actualisent et il faut dérouler les chevaux jusqu'au bout. Il faut laisser les choses aller jusqu'au bout, se concrétiser jusqu'au bout. Et c'est ça, il faut... Tout doit aller jusqu'au bout. Semble-t-il, c'est ça que... Il me semble que c'est ça le... Ne pas en rester aux potentialités. Vous me direz, mais c'est des échecs que ça n'a pas, pas réussi comme ça. Possible, effectivement. Mais peut-être que c'était nécessaire. Oui.
Ça expliquerait maintenant, à la lumière de ce que vous venez de dire, que Jacob ayant compris que ça devait se passer à travers ses enfants, il agit comme un bouclier par rapport à eux, et il s'est dit, moi, de toute façon, je m'écrase, maintenant, ce n'est plus d'important. Ce qui compte, c'est que mes enfants continuent, poursuivent.
Oui, oui, il est comme ça.
D'une certaine façon, il les a protégés en s'écrasant devant Esaü, sachant que l'essentiel, c'est de préserver la potentialité qu'il avait à travers cet enfant.
Oui, qu'eux puissent actualiser ces potentialités, justement. Oui.
Oui.
Ah oui, je pense que c'est quelque chose comme ça. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fini ce morceau-là. On fera autre chose, mais ça chaîne la prochaine fois.
N'oubliez pas Moshé Shabbat.
Pardon ? Nous n'oublions pas Moshé Shabbat. Oui, comme dit Yaakov, Moshé Shabbat, Melave Malka. À 21h pour les petits fours et 21h45 pour les paroles, pour Amalek, avant et après.
Il fera à peu près moins 5 dehors.
On viendra après.
Avec la dracha de votre Shabbat.
Pardon ?
On va écouter ce qui est avec la dracha de votre Shabbat.
J'ai pas encore entendu les premiers mots de ce que vous dites.
Est-ce qu'il sera possible,
oui,
sur Skype,
c'est possible, oui. Peut-être, oui. Si Yaakov le met en place comme il faut, ça ira.
Qu'est-ce qu'il veut qu'on mette à...
J'entends
qu'est-ce qu'il
veut téléphone
bon. Khan veut que tu mettes en place Skype.
À Skype.
Ah, ok. Bien
aidé. Chabez.
Chabez.
Et Chabez.
D'accord.
Ouais, ça marche pas, ça. On a pas. Ils ont pas encore décidé.